La ruine au pays des Soviets, par le comte Kokotsov. L'enfer des enfants. Le gouvernement des Soviets a porté la main sur la vie russe tout entière, dans toutes ses manifestations et dans tous ses domaines. Il a tenté de détruire tout ce qui a été créé par l'effort continu, matériel et moral, de nombreuses générations, d'abolir la société qui avait pour base les conceptions et les principes de tous les pays civilisés. Et il a voulu construire sur ces ruines une vie nouvelle, d'après une formule nouvelle et d'après des principes totalement différents, en employant pour les imposer la force brutale et des procédés d'une férocité inouïe. Dans les études que nous avons consacrées ici même à la vie économique et aux finances des Soviets, nous avons vu quel est, dans le domaine de la production, du travail, de l'épargne, le bilan de cette expérience, qui peut se définir par ces deux mots, désorganisation et destruction. Mais plus criminelle encore et plus irrémédiable a été l'action du gouvernement soviétique dans le domaine de la morale, en poursuivant férocement la religion, en détruisant toute liberté de pensée, en prêchant la haine des classes, en soumettant à la terreur la population tout entière, en portant l'espionnage et la délation jusqu'au sein même des familles, détruisant le pouvoir paternel, dissolvant la famille et transformant l'école en un instrument politique, les bolcheviks ont créé une atmosphère morale profondément viciée et désastreuse pour la formation de la jeunesse. Ainsi, par-dessus le présent, ils exercent sur l'avenir même du pays leur funeste influence. Que sera la génération future de la Russie? Telle est la plus angoissante parmi toutes les questions angoissantes que pose le régime soviétique. Comment vivent ces enfants? Comment sont-ils éduqués? Quels sont dans ce domaine les fruits de la morale communiste? C'est à ces questions que je voudrais répondre dans la présente étude. Mais avant de tracer le tableau de l'enseignement et de l'éducation sous le régime soviétique, je voudrais parler aujourd'hui d'une catégorie de l'enfance russe particulièrement misérable, les enfants abandonnés, en russe « bezbrizorni », non surveillés. C'est une des plaies les plus honteuses sur le corps de l'État soviétique, une calamité que n'avait encore jamais connue aucun peuple civilisé. L'enfance abandonnée, c'est notre plaie la plus terrible, déclare la presse soviétique elle-même. Et parmi les voyageurs français qui ont parcouru la Russie soviétique, ceux-mêmes qui se sont montrés le moins hostiles aux soviets ont tous parlé avec émotion des enfants abandonnés dont débordent les villes et les routes de la Russie. Ces enfants abandonnés, dit M. Jacques Lyon, forment un groupement humain spécial, en marge de la société et des lois et dont, sans doute, pour retrouver l'équivalent, il faudrait remonter aux périodes du Moyen-Âge qui suivirent les crises de famine et de peste. Il existe en Russie soviétique, dit M. Joseph Douillet, quelque chose qu'on ne trouve dans aucun autre pays civilisé, ce sont les enfants orphelins ou abandonnés par leurs parents qui sont livrés à eux-mêmes. Comment est-on arrivé à peupler le pays de bandes innombrables de ces enfants abandonnés de tous? La Russie nouvelle, dit M. Luc Durtin, est frappé de la plaie la plus monstrueuse et, il faut le dire, la plus imméritée qui puisse humilier un peuple. C'est des enfants abandonnés, des bezprizorni que je parle. Pauvres petites victimes d'effroyables cataclysmes, dit Madame André Violis, ils sont à la fois des remords vivants et des fléaux. Si certains voyageurs étrangers ne parlent pas des enfants abandonnés, ce ne peut être qu'ils ne les aient pas aperçus. Il est de toute impossibilité de ne pas apercevoir les bandes de pauvres petits loqueteux et affamés qui vagabondent à travers la terre russe et remplissent les rues des grandes villes. Quel en est le nombre? À cette question, il est difficile de répondre avec exactitude. Les enfants abandonnés, éléments essentiellement mouvants, redoutent tout contact avec les autorités et fuient les agents de recensement. On espérait que le recensement général de la population du 1er décembre 1926 permettrait d'arriver à une évaluation un peu plus précise. Il n'en a rien été. Le jour du recensement, les enfants ont déserté les maisons en ruine, les gares, les villes d'été où ils s'abritent. Nous passons par la rue Borobaya, par la rue Voronenskaya et par d'autres rues, raconte un journaliste russe qui accompagnait les agents de recensement. Nous examinons les maisons en ruine et les maisons en construction, mais nous ne trouvons pas d'enfants abandonnés. Ils ont fui. Dans certains endroits, les enfants abandonnés engageaient de véritables batailles avec les agents de recensement. À Ekaterinoslav, on avait décidé de recenser les enfants abandonnés le jour, considérant qu'un recensement effectué la nuit présenterait un danger. L'état-major des enfants abandonnés se trouvait dans un vaste immeuble en ruine. Tandis que le groupe d'agents de recensement montait l'escalier, il fut reçu, à la hauteur du quatrième étage, par une grêle de pierres et toute tentative de monter plus haut dut être abandonnée. Après 2 heures de pourparlers, les agents de recensement durent s'éloigner. Quoi qu'il en soit, évalué en 1922-24 par millions, le nombre des enfants abandonnés n'est plus évalué depuis 1925 que par centaines de mille, quelquefois même par dizaines de mille. Une telle diminution d'une année à l'autre a lieu de surprendre. Mais il suffit de remarquer qu'en URSS, la statistique, uniquement au service du gouvernement des soviets, est employée moins encore à déterminer les phénomènes qu'à les dissimuler. L'émotion soulevée à l'étranger et à l'intérieur du pays même par les descriptions de ce fléau a été telle que le gouvernement soviétique a senti la nécessité d'une grande discrétion. La brusque diminution ne s'est sans doute produite que sur le papier. En 1923, la veuve de Lénine, Madame Krupskaya, disait « Le nombre des enfants abandonnés enregistrés est chez nous de 7 millions, et de ce nombre, 800 000 au maximum sont placés dans des maisons d'enfants. » Et la même Madame Krupskaya évaluait à 8 millions le chiffre des enfants abandonnés à la fin de 1923. D'après le professeur Poznichev, ce nombre a dû rester en 1926 sans grande modification. Lunacharsky, commissaire du peuple à l'instruction publique, considère qu'en 1922, le chiffre des enfants abandonnés devait même atteindre 9 millions. Comme nous l'avons dit, le nombre des enfants abandonnés n'est plus évalué depuis 1925 que par centaines de mille. Il aurait été en septembre 1926 d'environ 600 000, d'après la commission pour l'amélioration de la vie des enfants auprès du comité central exécutif, et de 400 000 d'après les Izvestia. L'encyclopédie soviétique de 1927 donne même le chiffre de 334 000. C'est celui qu'on trouve souvent chez les voyageurs étrangers et qui, de toute évidence, leur a été communiqué par les fonctionnaires chargés de les renseigner. Hélas, voici un simple calcul qui en démontre l'inexactitude. La dépense pour la lutte contre le fléau de l'enfance abandonnée a été en 1927 de 65 millions de roubles. Or, on compte, comme dépense moyenne par enfant hébergé dans les maisons ou colonies d'enfants, 140 roubles. Le nombre des enfants abandonnés, et pour l'entretien desquels le gouvernement ouvre des crédits, a donc dû être d'environ 450 000. Mais à ce nombre, il faut ajouter celui des enfants qui vivent dans les rues des grandes villes ou vagabondent sur les routes. Ne citons à ce sujet que la presse soviétique la plus récente. En 1927, au cours du 13e congrès des soviets, Leyava, remplaçant le président du Conseil des commissaires du peuple, disait « Nous avons diminué le nombre des enfants abandonnés dans les centres et on a eu l'impression que le nombre des enfants abandonnés a diminué dans le pays en général. Mais les renseignements qui nous parviennent de la province prouvent qu'en réalité, ils ne diminuent pas. » Et Madame Kalinine faisait la constatation suivante « Souvent, on a pris à Moscou des mesures énergiques pour nettoyer les rues des enfants abandonnés. » Mais peu de temps après, les mêmes rues étaient de nouveau pleines d'une foule d'enfants abandonnés et l'afflux de nouveaux Bezbrisorniers ne diminue pas. Plus récemment, en avril 1928, le comité central du Parti communiste constatait que les rues des villes étaient toujours remplies de milliers d'enfants abandonnés et il faisait appel à ses organisations locales pour lutter contre ce fléau. Et au cours de la même année 1928, la Pravda, tout en constatant que certains résultats avaient été atteints dans la lutte contre l'abandon des enfants, avouait qu'aucun changement radical ne s'était produit dans ce domaine. Ainsi, nous sommes autorisés à calculer que le nombre réel des enfants abandonnés doit être évalué non pas par centaines de mille, mais toujours par millions. Ces millions d'enfants abandonnés, comment et dans quelles conditions vivent-ils ? Une partie est placée dans des maisons ou des colonies d'enfants. Nous en parlerons plus loin. Occupons-nous d'abord des enfants qui vivent dans les rues des grandes villes ou se déplacent sur les routes pour atteindre en été les villes d'eau et les plages de climat doux et pour retourner ensuite dans les grandes villes où ils ont plus de facilité à trouver en hiver des moyens de subsistance. De toutes les villes, c'est Moscou qui attire surtout les Bezbrisorniers. La perte des parents, le chômage, le complet dénuement, quelquefois le désir d'apprendre et le vague espoir d'être reçu dans une école, chassent les enfants de leur village natal vers la capitale. Arrivé à Moscou, l'enfant erre dans la rue, mendie, bol, et s'ingénie à trouver un abri pour la nuit et contre les intempéries. Maisons en ruine, gares, wagons vides ou même marmites, dans lesquelles on fond l'asphalte, grandes boîtes à ordures, etc. Mais dans les autres villes, celles particulièrement qui ont souffert de famine au cours des années 1921-24, à Petrograd, Kazan, Samara, Saratov, Rostov, Odessa, Omsk, Tashkent, Nijni Novgorod, Sébastopol, etc., l'afflux des Besbrissaronniers est à peine moins considérable. Voici, publié par la revue Krasnaya Nov, le récit d'un gamin trouvé à moitié mort dans les champs couverts de neige. Nous sommes partis avec ma mère vers Tiflis. Elle était malade. Elle est morte dans le train non loin de Tiflis. Je n'avais jamais demandé l'aumône, mais il ne me restait pas autre chose à faire. Je commençais à errer dans les rues. Je rencontrais des camarades. De Tiflis, nous nous rendîmes à pied à Bakou, puis de là, par vapeur, à Krasnodovsk. Là, mes camarades m'ont quitté. Je suis allé à Tashkent, et j'y ai passé 2 ans et demi. Pour la nuit, je m'installais dans la gare. Je me cachais derrière une armoire. C'était une armoire qui n'était pas tout à fait collée contre le mur. Il ne fallait pas se coucher, car le soldat de milice pouvait voir les pieds. Alors je pris l'habitude de dormir debout, derrière l'armoire. Un camarade ayant trouvé ma cachette, nous nous y installâmes tous les deux. Un troisième voulut nous rejoindre. Nous lui avons dit « C'est impossible, il n'y a pas de place. On nous trouvera et on nous chassera tous. Cherche plutôt une autre armoire. » Mon camarade me conseillait d'aller à Moscou. « Tout le monde va à Moscou, disait-il. On a fait savoir à tous les orphelins de se rassembler à Moscou. » Je me rappelais alors que j'avais un oncle à Moscou qui faisait des tableaux. Ma mère m'en avait parlé. Nous voilà donc en route. À une station, le conducteur du train aperçoit mon camarade et l'oblige à descendre. Mon camarade descendit et tomba sous les roues. Il fut coupé en deux. La route est longue, de Tashkent à Moscou. Il faisait encore chaud à Tashkent, mais le temps devenait froid à mesure que nous avancions. Je demandais l'aumône aux gares où je chantais sous les fenêtres des wagons. Mais les voyageurs eurent bientôt assez de moi. On ne me donnait plus rien. Je me remis en route, mais le vent se leva, la nuit vint, j'avais faim. Alors, à bout de force, je suis tombé. Voici la description des visus d'une des marmites à asphalte où se réfugient les Besbrissaronniers. C'est Madame Kalinine, femme du président du comité central exécutif, qui s'occupant de la protection des enfants abandonnés, a rendu visite à un groupe logé dans une de ces énormes marmites en fonte qui dépasse parfois la taille d'un homme. Arrivé à une distance qui me permettait de discerner les objets, j'aperçus devant mes yeux une de ces marmites noires dans lesquelles on fond l'asphalte. Peut-être ne l'aurais-je pas aperçu, mais on voyait une flamme briller, et cela lui donnait un air encore plus mystérieux et plus sinistre. Les habitants de la marmite étaient collés contre elle, comme des étourneaux qui se rassemblent sur une bâtisse en ruine dans les champs. Ils étaient en train de se chauffer. La marmite a 38 habitants. Parmi eux, 8 enfants ont encore leurs parents. Un de ceux-ci a une mère, qui, selon sa propre expression, ne ressemble pas du tout à une mère. Elle cogne dur. Ainsi, ces 8 gaillards, dont les pères et mères sont en bonne santé et capables de travailler, sont absolument abandonnés. Comme nationalité, l'un est un petit chinois, 4 sont tartares, 2 tchouvaches et un juif. Ensuite, 14 orphelins de père et mère. D'où viennent-ils ?
De loin, répondent les enfants. Notre itinéraire, c'est Tashkent, Moscou, Sébastopol et retour.
D'autres sont à demi orphelins. Leur père ou leur mère habite quelque part, dans un village lointain, mais où ils n'en savent rien. Au centre même de Moscou, dans la rue de Petrovskaya, une grande caisse à ordures fermée par un couvercle a été trouvée abritant 10 enfants. Ils dormaient en refermant le couvercle et ne laissant qu'une petite ouverture par laquelle pénétrait un peu d'air. À Petrograd, à l'angle de la perspective de Lermontov et du canal de Griboïdev, l'inspection des enfants a découvert dans une bâtisse en ruine, qui servait autrefois d'établissement de bain, 20 enfants abandonnés et quelques adultes qui s'y rassemblaient régulièrement toutes les nuits, faisaient la cuisine, buvaient, jouaient aux cartes. Et voici d'autres petits êtres affamés et déguenillés qui dorment sur les tas de sable près des colonnes de la cathédrale de Kazan, dans le centre même de la ville,
à proximité de la perspective Nevski et des voies les plus fréquentées et inondées de lumière. Encore peut-on se demander si ces abris ne sont pas préférables aux asiles de nuit, qui recueillent des enfants privilégiés, ceux qui possèdent quelques kopecks pour se payer ce luxe. Là, ils sont mêlés à la vie des bas-fonds de la ville. À l'extrême saleté physique s'ajoute une atmosphère morale profondément viciée, la société des criminels, des souteneurs, des prostituées. Le sort de l'enfant qui a passé par une pareille école est réglé d'avance. À la première approche du printemps, aussitôt que commencent à bourgeonner les arbres, les enfants abandonnés quittent les villes où ils se sont tapis en hiver. Ils se dirigent vers les pays plus chauds, vers la mer, vers la montagne, là où l'on peut dormir à la belle étoile et se nourrir de fruits et de légumes volés dans les jardins. Alors, les voies ferrées de l'URSS se remplissent d'une foule de ces enfants sordides et émaciés. Ils voyagent en fraude, par milliers, sous les wagons, au milieu de la suie et de la poussière, risquant sans cesse de tomber sous les roues, entourant à tout arrêt du train les voyageurs comme un troupeau de louveteaux affamés. Des villes du nord, ils émigrent ainsi, parcourant des distances qui dépassent 2 000 à 3 000 kilomètres, vers le Caucase, vers la Crimée, vers le soleil du midi. Voici une description toute récente de la ville caucasienne de Tuapse. Un ciel clair, un soleil chaud, un climat doux, la mer, un littoral pittoresque, et l'originalité de la vie caucasienne attire là des masses de gens sans foyer venus du nord. C'est pourquoi l'on rencontre à Tuapse tant d'enfants abandonnés. On en compte plusieurs centaines, des milliers peut-être. Ils vivent en groupes organisés qui ont leur chef. Ils ont leur langue, leur morale à eux. Leur jargon, absolument incompréhensible pour les étrangers, consiste en un emploi conventionnel de divers mots empruntés à la masse des langues qui sont parlées à Tuapse. Aucun groupe n'a le droit d'occuper pour la nuit l'emplacement qui a déjà été retenu par un autre. C'est ainsi qu'ils se répartissent entre eux tous les bâtiments vides, les baraques, les cavités ou les anfractuosités situées au bord de la mer. Ils y passent la nuit ensemble, sans distinction de sexe ni d'âge, où ils s'y rassemblent le jour pour dormir, jouer aux cartes, aux osselets, aux dominos. Au bazar, on les rencontre en masse, sales, déguenillés, en train de chercher ce qu'ils pourraient bien chaparder. La ville est pleine des exploits de ces enfants abandonnés. Sur leur démoralisation courent des récits effroyables. Entre ces enfants si jeunes, il y a des mariages, et l'on voit ces femmes de 12 à 13 ans fuir leurs maris, lesquels organisent de véritables chasses pour les reprendre. Nombreux sont les crimes qui ont pour cause la jalousie. « Qu'est-ce que tu fais là ? » demande-t-on à une petite fille de 10 à 11 ans qui fume sur le perron d'une maison, dans la grande rue, à 9 heures du soir. « J'attends un homme, » répond-elle sans sourciller. Ces enfants abandonnés exercent une étrange et malsaine attraction sur les autres enfants de la ville. Maintes fois, les parents rencontrent leurs enfants au milieu de ces vauriens et les ramènent chez eux. Mais bien souvent, les enfants retournent auprès des bandes. Dans d'autres cas, quand les autorités renvoient des enfants abandonnés à leurs parents, ceux-ci refusent de les reprendre, car dès leur retour se produisent des vols et toutes sortes de méfaits. La plus grande partie des enfants abandonnés, dans le paradis des ouvriers et des paysans, sont d'origine ouvrière et paysanne. Les enfants d'ouvriers et de paysans forment 78,8% du nombre total des enfants abandonnés. Les 3/4 des enfants abandonnés sont des enfants d'ouvriers et de paysans et leur nombre augmente tous les ans. Conséquence inévitable du dénuement grandissant du prolétariat russe. D'après une enquête détaillée faite en 1927, il y avait parmi les enfants abandonnés 15% d'enfants de 3 à 7 ans et 57% d'enfants de 8 à 13 ans. Il est évident que tous ces enfants n'ont pu remplir les rangs des abandonnés que sous le régime bolchévique. L'enquête a établi que parmi les enfants abandonnés, 67% sont orphelins de père et de mère et 27,5% orphelins de père ou de mère. Mais, faites souvent d'après les déclarations des enfants, l'enquête n'inspire pas, sur ce point spécial, beaucoup de confiance. Parmi ces millions d'enfants abandonnés, la criminalité et tous les vices se propagent, le cocaïnisme, l'alcoolisme, les jeux de hasard, les vices contre nature. Le milieu des enfants abandonnés, disent souvent les journaux soviétiques, est l'école de la criminalité. Il est certain que chaque enfant abandonné, dit le recueil édité en 1927 par le commissariat de la justice sous le titre « Le droit des enfants », a commis plusieurs délits, même si la police et les tribunaux ne les ont pas portés à son compte. Le milieu et la fin mettent l'enfant sur la voie du crime. Il commence par voler du pain, continue par arracher en courant les sacs à main des femmes. À l'occasion, il ne s'arrête pas devant l'assassinat. Voici la statistique de l'année 1924 pour le territoire de la République socialiste fédérative des Soviets russes, à l'exclusion de Moscou. Au cours de cette année, les enfants abandonnés ont commis 29 527 crimes, dont 13 641 vols, 59 vols de chevaux, 88 vols à main armée, 265 incendies volontaires, 118 assassinats, 324 mutilations, 236 attentats aux mœurs. Parmi les 118 assassins, 20 ont l'âge de 10 à 11 ans, 22 au-dessous de 10 ans. Presque tous les incendies volontaires, 200 sur 265, sont l'œuvre d'enfants dont l'âge ne dépasse pas 11 ans. Veut-on un témoignage plus récent ? La statistique, écrit la Gazette Rouge du soir dans son numéro du 9 juillet 1928, nous apprend que la criminalité parmi les enfants s'accroît systématiquement. Cet indice angoissant nous force à porter de plus en plus notre attention sur l'enfance abandonnée qui est la principale source de cette criminalité. Parmi les enfants criminels, lisons-nous dans le recueil du commissariat de la justice que nous venons de citer, sont fortement répandus l'alcoolisme, le morphinisme, le cocaïnisme et autres formes de la narcomanie. Sur les 2445 enfants qui sont passés à Moscou seulement en 1925 devant la commission des mineurs, il y avait 400 malades, dont 114 narcomanes, 16 syphilitiques, 53 malades psychiques, etc. D'après les données du docteur Cholomovitch, de 40 à 90% des enfants abandonnés sont des cocaïnomanes. Sur les 102 enfants abandonnés examinés en 1926 à Moscou par la section des maladies sociales, deux seulement n'usaient pas de stupéfiants. La plupart des fillettes vivaient de la prostitution. Sur les 50 000 enfants âgés de 12 à 14 ans qui sont passés dans la période de 1921-1924 devant la commission des mineurs, 50% étaient atteints de maladies contagieuses. Quelles mesures ont été prises par le gouvernement des Soviets pour lutter contre ce fléau redoutable ? Ce sont l'initiative et la bienfaisance privée qui ont attiré son attention sur ce phénomène et les dangers qu'il présente pour la santé physique et morale du peuple. Mais comme on va le voir, aussitôt qu'il se fut rendu compte de l'importance que présente le problème de l'enfance abandonnée, il écarta immédiatement de la lutte contre ce fléau l'initiative privée et prononça la dissolution des groupements qui s'étaient formés en vue de cette lutte, en déclarant qu'il savait ce qu'il avait à faire et qu'il voulait rester maître absolu là comme partout. Il est jaloux de tout succès de l'initiative libre et il craint des manifestations hostiles de la part de tout groupement privé. C'est de même que lorsqu'il fallut organiser la lutte contre la famine, il prit en 1922 des mesures brutales de répression contre la Commission sociale d'aide aux affamés. Les deux organisations privées, qui ont l'initiative de la lutte contre l'abandon des enfants, ont été la Ligue de sauvetage des enfants, fondée en 1918, et le Conseil de la défense des enfants, fondé en janvier 1919. La Ligue, raconte Madame Kouskova, qui était l'un des membres les plus actifs de cette œuvre, a été fondée sur le conseil du célèbre écrivain russe Korolenko. Elle était composée d'intellectuels, de médecins, de coopérateurs, socialistes ou démocrates de toutes nuances, mais aucun bolchevique n'en a fait partie. Au cours de la première année, elle a créé 14 colonies d'enfants, un sanatorium et plusieurs clubs et jardins pour enfants. Non seulement les enfants étaient nourris et habillés, mais on leur apprenait à lire et à écrire et on leur enseignait un métier. Le personnel était dévoué et de haute moralité. Les ressources étaient fournies en cachette par les sociétés coopératives qui, à cette époque, n'étaient pas encore nationalisées. 3500 enfants sont passés par la Ligue et, dit Madame Kouskova, nous avons vu qu'on peut faire de vrais miracles avec les enfants abandonnés. La Ligue a travaillé sans incident jusqu'au printemps de 1920, où arriva en Russie la première délégation des ouvriers anglais. La délégation visita une des colonies de la Ligue. Kamenev donnait en français les explications aux délégués en déclarant que la colonie était l'œuvre du gouvernement des Soviets. Une des institutrices, indignée de ce mensonge, expliqua aux délégués que la colonie n'était pas une œuvre bolchévique et leur conseilla de s'adresser à la direction de la Ligue. Les délégués s'y rendirent, posèrent des questions et inscrivirent les réponses dans un journal que les agents bolcheviques leur ont volé par la suite. Le 1er janvier 1921, la Ligue fut dissoute. Le Conseil de la défense des enfants subit le même sort. En mai 1921, la secrétaire générale du Conseil, Mme Kanseldan, avait fait un rapport à la troisième section du comité exécutif central sur le danger social que présentait l'enfance abandonnée. Le résultat fut tout à fait inattendu. Le rapport produisit sur les dirigeants soviétiques une impression énorme et le chef suprême de la Tchéka, Dzerzhinsky, décida de prendre lui-même l'affaire en main. La Ligue de la défense des enfants fut à son tour dissoute et l'on créa sous la présidence de Dzerzhinsky la commission extraordinaire des enfants. En fait, tout le travail de Dzerzhinsky se borna à la liquidation des organisations créées jusqu'en 1921 et dues aux efforts de l'initiative privée. La seule arme que le gouvernement soviétique ait employée, outre la répression pour guérir cette plaie, a été la multiplication des maisons d'enfants. Les autres moyens utilisés, placement dans les familles de paysans ou chez les artisans des villes, et même incorporation dans l'armée rouge, etc., n'ont pas dépassé l'importance de simples essais. La mort a été, d'autre part, une excellente alliée du gouvernement des Soviets dans ses efforts pour diminuer le nombre des enfants abandonnés. Elle a fauché par dizaines de mille ces êtres chétifs et malades, exposés à la faim et aux intempéries. Voyons maintenant ce que sont ces maisons d'asile d'enfants créées par le gouvernement des Soviets. En voici le bilan d'après la Krasnaya Nov. Seulement 12,5% des locaux occupés par les maisons d'enfants sont convenablement aménagés. Ce sont d'anciens asiles, maisons d'éducation ou écoles. Les autres sont des appartements privés absolument inadaptables au but auquel ils doivent servir et très souvent des locaux en ruine dans lesquels aucune réparation n'a été effectuée depuis 9 ans. Devenus humides, froids, sales, ils sont absolument impropres à servir de cadre pour l'éducation et le travail des enfants. Le mobilier est pitoyable. Dans 42% des maisons, il n'y a qu'un lit pour 2 ou 3 enfants. Dans une maison du gouvernement de Koursk, il n'y a que 40 lits pour 155 enfants. L'ensemble des maisons possède 1300 ateliers d'études. Leur outillage est dans la plupart des cas complètement insuffisant. La même revue décrit une de ces maisons qu'elle considère comme typique. Comme exemple de l'état où se trouvent les maisons d'enfants, on pourrait citer le rapport d'un instructeur du commissariat de l'instruction publique qui a fait une enquête dans le Caucase du Nord. En décrivant l'état des maisons d'enfants à Novotcherkassk, il écrit « Sauf de rares exceptions, les maisons d'enfants fourmillent d'insectes et le nombre d'enfants malades de la gale est considérable ». Le directeur de l'éducation sociale des enfants, M. Epstein, se plaignait en novembre 1927 à la conférence des maisons d'enfants de ce que les enfants étaient sans cesse changés d'établissement, ce qui empêchait toute organisation normale du travail et que les instituteurs étaient soumis aux mêmes mutations. M. Epstein renouvelait ses plaintes dans les journaux de 1928 et cite le cas d'une maison d'enfants dans laquelle, en 2 ans, il y eut 62 changements parmi les membres de son personnel dirigeant et enseignant. On pourrait multiplier ces exemples. Nous nous contentons d'en citer encore 2, puisés dans la presse soviétique de 1927-1928. Ceci est la description de la maison d'enfants numéro 17 à Kazan. Une petite chambre remplie de couchettes sans couverture. Des torchons sales tiennent lieu de linge. Chaque couchette sert à 2 enfants. Les matelas sont faits avec de la paille pourrie et puante. Près des fenêtres, des flaques d'eau formées par la neige fondue. On a mené les enfants au bain au printemps, et depuis pas une seule fois. Mieux encore, la maison ne possède pas de lavabo et tous les jours, à 7 heures du matin, par les froids les plus rigoureux, les enfants courent tout nus dans la rue pour se laver au robinet. Et que sont les instituteurs? Voici l'instituteur Akimov, qui a dû quitter le service en raison de sa conduite envers les fillettes. Il y a eu plusieurs suicides parmi les enfants, et l'on a 2 fois empêché une fillette enceinte de se donner la mort.
Et voici un autre instructeur, un certain Sidor, communiste. Il bat et injurie les enfants. Il confectionne des vêtements pour lui et pour les membres de sa famille, avec l'étoffe destinée aux enfants qui se promènent vêtus seulement de linge, sans costume, sans bottines. Le Sovietski Youg décrit ainsi la maison d'enfants numéro 2 à Rostov-sur-le-Don. « Bouchez-vous le nez, bouchez-vous le nez, car aucun odorat ne peut supporter les odeurs nauséabondes qui vous assaillent. Bouchez-vous le nez et soulevez le col de votre pardessus, car vous risquez de prendre froid. Dans la rue, la température est au-dessous de zéro, et dans les chambres, la température est à peu près la même que dans la rue. Par terre, à côté de chaque lit, des excréments qui puent. Dans la pièce énorme et qui n'est pas chauffée, vous verrez sur des lits des êtres recroquevillés, enveloppés dans quelque chose qui rappelle vaguement des vêtements. Ici, les puces se nourrissent des enfants, qui, eux, sont nourris d'une bouillie dont il serait difficile de déterminer les origines. Ici, des gamins de 8 et 9 ans violent une fillette de 8 ans après l'avoir ligotée. À Sizran, l'inspecteur du commissariat de l'instruction publique, à son arrivée dans la maison d'enfants, fut entouré par les pupilles qui lui criaient en face « nous vous haïssons le pouvoir soviétique, vous avez fait de nous des parasites !» La Komsolmoskaya Pravda du 9 août 1928 dit qu'elle reçoit des centaines de lettres contenant des renseignements sur ce qui se passe dans les maisons pour les enfants abandonnés, et elle attire l'attention sur les véritables horreurs qui se passent derrière les murs des maisons d'enfants. Si défectueuse que soit l'organisation des maisons d'enfants, elle représentait un certain effort que le pouvoir soviétique n'est pas en état de continuer. Le manque de ressources le force à diminuer sensiblement le nombre des enfants auxquels il donne asile dans ses maisons. La presse soviétique elle-même élève des protestations, mais elle se heurte à l'état des finances soviétiques. Tandis que le nombre des enfants recueillis était en 1921 de 540 000, on le voit tomber en 1923 à 252 317 pour être en 1927 de 200 000. Tel est donc le bilan de l'action gouvernementale en présence de l'enfant abandonné. Premièrement, le gouvernement soviétique s'est montré incapable de vaincre le fléau et de donner aux enfants abandonnés l'abri, les soins hygiéniques et de leur assurer, même dans les limites les plus restreintes, l'éducation et l'enseignement d'un métier. Deuxièmement, le gouvernement soviétique s'est trouvé incapable d'empêcher que de nouveaux enfants abandonnés ne viennent grossir les effectifs déjà existants. Cette impuissance n'est que trop facile à comprendre quand on remonte aux causes du fléau. Comment le régime bolchevique pourrait-il remédier à un mal dont l'origine se trouve précisément dans l'ensemble des conditions économiques et sociales créées par lui? Les causes du phénomène social que nous étudions ici peuvent se diviser en trois catégories. La Grande Guerre et la guerre civile, les conditions économiques engendrées par le régime soviétique et en premier lieu la famine de 1921, la dissolution de la famille, conséquence des conceptions et de la législation bolchevique sur le rôle des parents, sur le mariage et sur la famille. Les grands mouvements des populations qui quittaient précipitamment les territoires envahis par l'ennemi ou en étaient évacués était accompagné fréquemment de l'abandon des enfants. À cette époque, on trouvait déjà dans les villages, sur les voies ferrées et à l'arrière immédiat du front, de très nombreux enfants orphelins et enfants perdus ou abandonnés par leurs parents, enfants misérables, sans abri et sans nourriture, ignorant souvent leur nom et le lieu de leur naissance. Leur nombre n'a jamais été fixé exactement, mais d'après Marot, auteur d'un livre sur l'enfance abandonnée, édité en 1925 à Moscou, il n'a pas dû dépasser 50 000. Et dès l'origine, furent créées des institutions qui enregistraient, photographiaient ces enfants et prenaient des mesures pour rechercher leurs parents. L'État et la société russe auraient, sans aucun doute possible, rapidement remédié à cette misère de l'enfance si la Russie n'avait pas été soumise à la dictature bolchevique. La guerre civile de 1918-1920 fut ensuite un terrain propice pour la formation de nouveaux contingents d'enfants abandonnés. Toute la terre russe se trouve à séparer en camps ennemis par de nombreux fronts. Front ouralien, front ukrainien, front sibérien, front du Nord, front du Midi, etc. La population émigrait en masse d'une province dans l'autre. La guerre civile était accompagnée d'épidémies
et de la ruine économique est suivie par la terreur impitoyable des bolcheviks. Elle a fait de nombreuses victimes, laissant après elle des enfants orphelins, mi-orphelins ou abandonnés par leurs parents. Avec la grande famine de 1921 et les famines qui l'ont suivie en 1922-1924, nous abordons les phénomènes inhérents au seul régime bolchevique sous lequel vit la Russie. Dans les études que nous avons consacrées ici même à la grande famine de 1921 et à la nouvelle famine de 1922-1924, nous avons établi que les conditions météorologiques et les phénomènes naturels n'étaient pas les causes principales de ces famines. Elles ont été engendrées par un ensemble de conditions qui doivent être mises exclusivement sur le compte de la ruine économique et de la désorganisation administrative créée par le bolchevisme. Rappelons seulement quelques chiffres. En 1921, le nombre des habitants souffrant de la famine a été, d'après les sources bolcheviques, de 15 à 20 millions. En 1922, de 8 millions. En 1925, de 10 millions. En 1924, de 8 millions. Et encore, faut-il considérer ces chiffres comme au-dessous de la réalité. On estime que la famine de 1921 a fait de 1 250 000 à 3 millions de victimes et qu'au moins 1 million d'habitants ont quitté les territoires frappés par la disette. Quel a été le nombre des enfants affamés? On peut en juger par le fait que l'organisation américaine LARA, à elle seule, a secouru 4 171 441 enfants. Au cours des premières années qui ont suivi 1921, les contingents de Besbris-Ornier étaient surtout composés d'enfants abandonnés au cours de la famine. À cette époque, dit Le Troude, les adultes et les enfants abandonnaient précipitamment leur foyer et s'enfuyaient n'importe où avec la seule pensée de trouver du pain. Les enfants perdaient leurs parents et les parents leurs enfants. Nombreux étaient les enfants qui quittaient leur famille pour trouver plus facilement de la nourriture. Ces enfants séparés de leurs parents ont formé la principale partie de la masse des enfants abandonnés. Une partie a été recueillie dans les maisons d'enfants, une autre a envahi les rues des villes ou s'est réfugiée dans des villages lointains. Nombreux étaient à cette époque les cas d'abandon volontaire des enfants par leurs parents. Ils les laissaient à la porte des asiles d'enfants ou dans les isbas non chauffées qu'ils quittaient pour les mendier ou tout simplement le long des routes. Ce fut une année terrible où la réalité ressemblait à un cauchemar. Le docteur Vassilevski, dans son livre sur la famine, en 1922, raconte des cas où les parents, perdant la raison devant la souffrance des enfants, en tuaient un pour nourrir les autres de sa chair. Cas d'anthropophagie qui n'étaient nullement des cas isolés. Dans la seule république minuscule des Bashkirs, on en a constaté 200. Jusqu'au mois de juillet 1922, sans compter 2000 cas enregistrés de mangeurs de cadavres. Voici des faits précis que cite le docteur Vassiliev. Deux frères de 14 et de 16 ans tuent leur voisin de 11 ans, coupent un bras qu'ils font cuire et le mangent. Le lendemain, ils préparent un plat composé du foie, du cœur, des poumons. Un garçon de 15 ans tue sa mère et sa sœur de 13 ans pour les manger. Deux fillettes de 12 et 14 ans tuent, avec la complicité d'une jeune fille de 18 ans, la mère et la sœur de l'une d'elles et encore une fillette. Une bande de 3 enfants de 13 et 14 ans attirait des enfants dans leur isba, les assassinait et les mangeait. Le nombre des enfants abandonnés au cours de la famine a été énorme, et la proportion de ceux qui ont été abrités dans des foyers d'enfants a été presque nulle. L'appauvrissement extrême de la population, un chômage tel qu'aucun pays n'en connaît de pareil, le nombre des chômeurs dépasse 2 millions, les difficultés financières qui forcent le gouvernement des soviets à fermer les maisons et les asiles d'enfants, sont autant d'autres causes qui expliquent l'augmentation du nombre des enfants abandonnés. Une des raisons principales du fléau de l'enfance abandonnée, dit le communiste Boguslavski, est le chômage des adultes et des mineurs aussi bien dans les villes qu'à la campagne. Et c'est la raison, dit Le Troude, organe officiel des syndicats professionnels, qui fait que la masse principale des enfants abandonnés se compose d'enfants d'ouvriers. Le surpeuplement agraire, la formation de plus en plus intense d'un prolétariat agricole qui quitte en masse les villages pour chercher du travail dans les villes, est enfin une dernière cause qui multiplie le nombre des enfants abandonnés. En même temps que le désordre de la vie économique, la dissolution de la vie morale, conséquence directe et inévitable de la mise en pratique des théories soviétiques en matière de pouvoir des parents, de mariage et de famille,
a agi dans le sens d'une forte augmentation du nombre des enfants abandonnés. Aucune révolution ne sera possible tant que la famille et l'esprit de famille existeront, dit une résolution du Comintern. Et le fameux jurisconsulte soviétique Koigberg proclame « La famille doit être remplacée par le parti communiste ». Avec un cynisme sans pareil, ces idées sont exposées par la femme de Zinoviev, Lilina, dans son livre « L'éducation soviétique et l'éducation par le travail ». « Nous devons, déclare-t-elle, soustraire les enfants à l'influence pernicieuse de la famille. Disons le mot, nous devons les nationaliser. L'amour des parents n'est-il pas surtout un amour nuisible aux enfants ? La famille est individualiste, égoïste, et l'enfant élevé par elle est le plus souvent antisocial et plein d'aspirations égoïstes. » On retrouve les mêmes idées dans l'ouvrage officiel édité en 1927, « La situation des enfants au point de vue du droit » dans la République socialiste fédérative des soviets russes. Nous y lisons « L'idée fondamentale proclamée par la révolution d'octobre est que les maisons d'enfants doivent réaliser l'œuvre de l'éducation communiste de tous les enfants aux frais de l'État. » Et voici quelles élucubrations sont capables de servir à leurs lecteurs, les pédagogues soviétiques. Le professeur Zalkin décrit dans un recueil « L'enfance abandonnée » édité en 1926 à Moscou. La famille bourgeoise et petite bourgeoise fait épanouir dans l'enfant des traits maladifs, individualistes, sexuels, fantastiques. La famine, le froid, l'absence de jouets, les camarades et la rue qui attirent l'enfant, l'organisent, créent des liens sociaux, le préservent de l'égocentrisme excessif et des fantaisies maladives. Quand on admet pareille théorie, il n'y a qu'un pas à faire pour reconnaître les enfants abandonnés comme des individus particulièrement aptes à servir avec profit aux expériences de la pédagogie communiste. Ce pas est en réalité franchi par la communiste Maro Levitina, qui essaie de prouver que la nature des enfants abandonnés est un terrain particulièrement fertile pour produire des communistes. Si les pédagogues soviétiques aspirent à extirper de l'âme de l'enfant l'amour pour leurs parents et à détruire toute autorité paternelle, d'autre part, le législateur soviétique détruit le foyer familial en dissolvant la famille par sa législation sur le mariage et le divorce et par ses dispositions sur l'avortement. On sait que, d'après le code des lois soviétiques sur le mariage, la famille et la tutelle, il n'est même pas nécessaire d'enregistrer le mariage, qui peut être prouvé, en cas de besoin, par le témoignage de cohabitation et que, d'autre part, le divorce, pour lequel le simple désir exprimé par l'un des conjoints est suffisant, ne doit pas être obligatoirement enregistré. Quant aux avortements, ils sont opérés librement dans les hôpitaux et ont par exemple atteint à Petrograd seul, au cours des 6 premiers mois de 1927, le nombre de 11 732. Au cours du recensement général de la population, en 1926, dans de nombreux cas, les hommes déclaraient qu'ils avaient plusieurs femmes, et les femmes qu'elles avaient plusieurs maris. Inutile de faire remarquer que sur de pareilles bases, il est impossible de construire un foyer familial et de retenir l'enfant longtemps au sein de la famille. Les conceptions bolcheviques et la législation soviétique sur le mariage et sur la famille créent par conséquent les conditions les plus favorables à l'augmentation du nombre des enfants abandonnés. D'ailleurs, les dirigeants soviétiques, qui, il n'y a pas longtemps encore, déclaraient que l'enfance abandonnée est l'héritage de la guerre et du régime capitaliste, reconnaissent maintenant que ce fléau est le fruit des conditions nouvelles de la vie instaurée par les soviets. C'est ainsi que la veuve de Lénine, Madame Krupskaya, a écrit encore en 1925 « Les racines de l'enfant abandonné ne sont pas seulement dans le passé, mais aussi dans le présent. » Et le commissaire de l'instruction publique, Lunacharsky, déclarait à la conférence des maisons de travail en novembre 1927 « Nous avons de nouveaux cadres d'enfants abandonnés créés par les conditions sociales de la vie actuelle. » Tel est ce fléau de l'enfance abandonnée au pays des soviets. Aucun pays ne l'a connu, même au cours des époques les plus sombres de l'histoire. En faisant preuve de la plus grande impartialité, en faisant taire les sentiments d'indignation et de révolte, que nous inspirent les épreuves imméritées par lesquelles le bolchevisme fait passer notre grande patrie, nous n'avons eu qu'un seul but, montrer au monde entier, à l'aide d'une documentation exclusivement soviétique, les causes qui ont fait naître le mal et les conditions qui ont provoqué sa terrible extension. que le lecteur impartial juge lui-même l'étendue des malheurs que le régime soviétique fait s'abattre sur la Russie. Nous affirmons que le pouvoir soviétique est responsable de la calamité dont nous venons de tracer le tableau, qu'il n'a pas le droit de déplacer les responsabilités en prétendant qu'elle est née de conditions indépendantes de sa volonté et n'ayant rien de commun avec le régime par lui instauré. Nous savons, et nous l'avons dit, que les premiers indices du mal se sont manifestés à l'époque où les populations des régions du front, fuyant l'ennemi, quittèrent leur foyer et se déversèrent en torrents dans le pays, cherchant à l'est des abris contre la mort et la captivité. Mais nous savons aussi que la France, dans ses départements dévastés, la Belgique sur presque tout son territoire, la Serbie dans sa partie la plus peuplée, la Roumanie, ont connu les mêmes mouvements de population en fuite devant l'envahisseur. Les populations de certains de ces pays, emmenées par l'ennemi en captivité, ont même connu des souffrances plus grandes encore. Partout, aussitôt que se fut dissipé l'orage de la guerre, la population, décimée et ruinée, rentra dans ses foyers, souvent incendiés et détruits, et aucun de ces pays n'a connu ce cauchemar de l'enfance abandonnée et vagabonde dans lequel se débat actuellement la Russie des Soviets. Il est le fruit de ce même communisme qui ruina l'économie du pays, désagrégea la famille et détruisit les bases mêmes de la moralité et qui, se déclarant maître unique de tous les enfants du pays, essaya de les nationaliser comme il nationalisa la terre, les usines, les fabriques et tous les biens matériels des particuliers. La vie implacable a prononcé son jugement sur cette expérience monstrueuse et le fier pouvoir soviétique qui se place au-dessus de l'idée de nation, qui ne connaît pas d'obstacle à la réalisation de ses folles théories, qui rejette avec mépris l'idée de la patrie, de sa dignité et de son vrai bonheur, ce pouvoir reste maintenant impuissant et les bras pendants devant le fléau que lui-même a engendré. Il sent cette impuissance, mais il n'a pas l'honnêteté de déclarer « mea culpa, mea maxima culpa » et il continue de mentir en essayant de travestir la vérité avec la complicité de sa statistique. Des maisons d'enfants modèles sont exhibées à quelques voyageurs étrangers triés sur le volet, et les autorités soviétiques affirment que les enfants d'État, arrachés aux bras égoïstes des parents, reçoivent une saine éducation par le travail. Ainsi se formerait une jeunesse communiste s'avançant d'un pas assuré pour remplacer les coryphées de l'époque aurique du communisme militant et pour conquérir le monde. Mais à ces vantardises, la vie répond à sa manière et nous montre une toute autre réalité, que malheureusement ne voient pas les naïfs explorateurs étrangers du paradis soviétique. Elle nous montre des centaines de milliers d'enfants s'abritant dans des taudis, dans des chaudières, dans des terrains vagues, dans des wagons détruits, se moquant des décrets soviétiques et échappant à ses agents de surveillance, mourant comme des mouches les jours de froid et déjà remplacés par une nuée d'autres petits êtres misérables, loqueteux, corrompus dès l'enfance la plus tendre par les vices et les maladies, formant dans le pays un véritable foyer de contagion et constituant un danger effroyable pour l'avenir de la Russie. On voudrait amener cette redoutable danse macabre devant le tribunal de l'humanité pour qu'elle frémisse, secouée d'horreur et de compassion. Vainement formerait-on l'espoir que le mal puisse guérir sous le régime qui étouffe actuellement la Russie. Ce mal est le fruit du régime soviétique. Il est entretenu par toute l'ambiance de ce régime. Tant que ces causes subsisteront, il est illusoire de le combattre. Le mal est né de la ruine et de l'appauvrissement du peuple, de l'abolition de toute initiative privée, d'une dictature qui, en matière de morale, de famille, de liberté, a pour base les principes contraires aux conceptions de tous les pays civilisés. Pour combattre le mal, il faut attaquer la source. Tant qu'existera le pouvoir soviétique et le régime qu'il a créé, tout progrès dans la lutte contre le fléau de l'enfance abandonnée ne pourra être que superficiel et ne donnera que des résultats temporaires. À la place des phénomènes disparus, de nouveaux phénomènes de même nature se produiront sous l'influence des mêmes causes. C'est comme si l'on voulait assainir une eau sans assainir la source contaminée d'où elle jaillit. Dans ce domaine de la dissolution morale, plus encore que dans le domaine de la ruine économique, le monde, tant que n'est pas assaini la source, restera spectateur impuissant de ce cataclysme terrible. Un pays grand, puissant, doté par la nature de richesses énormes, pays en progrès continuel et qui avait donné au monde toute une civilisation, transformée en l'espace de 10 ans en un vrai enfer, au fond duquel on aperçoit le cercle horrible des enfants abandonnés et vagabonds. Comte Vladimir Nikolaïevitch Kokovtsov.